Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Et meublé comme les cafés genre 1950. Le biscroquet, un vieux gros, cheveux gris, tablier bleu, casquette noire, cigarette au bec, le regard mauvais, essuie des verres avec un torchon sans âge et dégueulasse. Et au comptoir, un homme et une femme sirotent un verre de rouge marniant. La femme est grosse, taille moyenne, vieille, le regard mauvais, cheveux gris en broussailles.
Lorsqu'elle ouvre la bouche, l'on voit qu'elle n'a plus de dents. Elle porte un vieux manteau sale, gris, tout taché, plus grand qu'elle. Elle est ivre. L'homme qui est à côté d'elle est un homme grand, maigre, cheveux gris, dans les 60 ans peut-être, habillé d'un vieux manteau marron. Lui aussi, tout taché. Il a les yeux rouges, la barbe grise pas rasée. Et lui semble peut-être ivre. Elle dit à l'homme, « Eh oui, moi, Yvette, du cours, j'ai connu de la haute. » L'homme la regarde bien et lui dit, « Toi ?» Elle lui dit, « Oui, et j'ai même un fils de lui. » L'homme lui dit, « Je te crois pas. C'est impossible. » Elle lui dit, « Tu me crois pas ? Mais j'ai une preuve, mon vieux. » L'homme rit et sort de son soutien-gorge une enveloppe usée, tachée, froissée. « Tiens, lis ça !» L'homme prend l'enveloppe, l'ouvre et lit. La lettre dit « Une personne dit son amour à la mère, parle du fils chéri. » Et l'homme voit la signature. « Ben mon Dieu, c'est vrai, et ton fils est le fils de... » « Oui, mon vieux, rends-moi ma lettre. » L'homme la roule au banc, prend, la met dans son enveloppe et la lui tend. Elle la remet dans son soutien-gorge et lui dit, « J'ai encore ça. Il m'a donné ça. » Et elle lui montre une broche. Belle broche en or, en forme de soleil, qui était enveloppée dans un vieux mouchoir dégueulasse. L'homme regarde la broche et lui dit, « Bon Dieu, ça c'est beau !» Et lui demande, « Mais pourquoi t'as-tu pas épousé ?» Elle lui répond, parce qu'il ne pouvait pas. Il était pris ailleurs. Une femme le faisait chanter. Terrible, une gitane. Elle lui dit, ça se complique. Elle range le bijou. Elle lui dit, ça s'arrose, ça. Allez. Il lui sert. Il lui remplit son verre. Et lui dit, tu sais. Elle lui fait, avec le marnia, je dis jamais non. Elle boit sec. Elle est complètement ivre morte. Il lui dit, c'est peut-être temps, c'est qu'on prenne l'air. T'as raison, ça semble renfermé ici. Et il sort. La fraîcheur de la nuit les surprend. Et puis, la nuit aussi. Ils étaient habitués à la lumière jaune sale de la salle. Il y a peu de personnes dans la rue. Une fois dehors, l'homme lui demande, « J'aimerais bien, j'ai passé un moment avec toi. » Il le regarde et lui dit, « Petit salaud, va, ça t'a excité. Ce que je t'ai dit, j'avais de la honte. » L'homme lui dit, oui, et puis je te trouve très appétissante. J'ai envie de te mettre la main sur ta jupe. et tout, quoi. Elle lui fait, d'accord, et parce que tu me plais bien, avec toi ce sera gratuit, viens. Il la suit, elle descend la côte, il lui demande, où on va? Elle lui dit, connais un coin, tranquille, où j'emmène mes clients. Très bien, viens mon chéri. Il la suit, elle le mène, rue Sainte-Marie des Terreaux. Dans une cour dégueulasse, pavée, avec plein d'immondices. La cour est entourée d'immeubles. Elle fait entrer au numéro 2. Il n'y a pas de porte. L'immeuble est vieux, sale et dégueulasse. L'allée ressemble à un passage. Les toilettes sont dépourcées, les détritus à terre. Ça sent la pisse et c'est vraiment dégueulasse. En face des boîtes aux lettres, il y a une porte grillagée où se trouvent les escaliers qui descendent aux caves. C'est là! Éclaire la minuterie et le fait passer. Descendre les escaliers de pierre usée. Ils sont tout de même larges, mais pleins de saleté. En bas des escaliers, il y a le couloir qui mène aux caves. Et tout à côté se trouve à droite un renforcement. Elle se plaque contre le mur et lui dit « Vas-y, mon vieux, j'ai pas de culotte. Touche un peu. C'est de la première. C'est pour les princes. » Défait son manteau, soulève sa jupe. On voit un énorme ventre blanc, visqueux, et en bas, des touffes grises. L'homme s'approche d'elle. Elle ne bouge pas. Elle ne voit pas ses yeux. Tout d'un coup, une douleur dans le ventre. Oh ! Il vient de lui donner un coup de couteau. Puis, le sort, le sang gicle de la peau. Elle n'a pas réagi. Le sang giclait sur lui. Lâche le couteau qui tombe à terre. Retourne le corps de la vieille qui s'affaisse à terre, morte dans son sang. Il se baisse, il déchire sa chemise et retire de son soutien-gorge la lettre et le mouchoir dégueulasse où il y a le bijou. Se redresse, décide de prendre le couteau et remonte les escaliers. Sort du renfoncement qui est en face d'où il était, à côté des escaliers, un grand homme mince, habillé d'un manteau et pantalon noir. Il le suit.
Une fois dehors, l'homme qui a tué marche dans les rues désertes, le menton en sang. Il marche sans savoir qu'il est suivi par cet homme qui a tout vu. Il va dans des rues désertes et sombres du premier arrondissement. Tout d'un coup, l'homme le dépasse. L'homme sursaute. Il voit un homme grand, mince, tête ronde, cheveux en brosse, lunettes pétales. Il semble être assez jeune, habillé de noir. Je lui dis, pardonnez-moi. Oui, je le prends au collet, le plaque contre la porte d'un immeuble. Il est d'une force surhumaine. L'allée. Dans l'allée, l'homme ne sait que faire. Et puis, la fatigue, le vin. L'autre le fait tomber à terre. Se plaque contre lui. Comme la tête contre le sol, jusqu'à ce qu'il meure. Le sang gicle derrière la tête. Le regard est fixe. L'homme n'a rien pu faire. Ça s'est passé tellement vite, et puis l'autre le tenait, la tête, avec ses deux mains, pour la faire plaquer contre le sol. Essoufflé. Le jeune homme prend de la poche du pantalon de l'homme la lettre et le mouchoir où il y a le bijou, se redresse et dit « Pardonne-moi, mais il le fallait, j'en ai besoin. » Puis le jeune homme sort de l'allée. Une fois dehors, dans les rues, il se dirige vers le vieux lion. Arrivé vers la primatiale Saint-Jean, il va à un immeuble qui lui fait presque face, qui a un café en bas de l'immeuble. Il va entrer dans l'allée que vous connaissez déjà. Il est entré dans l'immeuble que vous connaissez déjà et va jusqu'au deuxième étage. Va à l'appartement de droite. Cet appartement aussi vous connaissez. C'est l'appartement qu'il habite depuis toujours et qui était celui de sa mère, mais qui n'est plus, et Caramel aussi n'est plus. Il va à sa chambre. Éclaire et entre. S'assoit sur le rebord de son lit. Et ouvre la lettre. La lit, voit la signature, voit que c'est « Jeune tout ». Ce nom lui dit quelque chose. Puis, il sort la broche de son mouchoir.
Le mouchoir est dégueulasse. Il voit que c'est une belle broche en forme de soleil stylisée. Elle est très lourde. Je dis que ça doit valoir de l'argent et que la lettre peut servir. Alors, il prend une boîte, vieille boîte de gâteau en métal, au milieu de fils, de vieilleries, de fils électriques, piles, cassettes, etc. Il met la broche dedans et ferme la boîte. Et la dépose à terre. Bon, nous verrons plus tard. Mais d'abord, la lettre, qui semble très intéressante. Il faut que je sache qui est ce jeune tout, pour le dire que je sais tout, et que j'ai des preuves, et que j'ai la lettre, et que s'il la veut la récupérer, eh bien qu'il faudra qu'il paye. Autrement, elle ira dans le progrès. Il doit payer. Il réfléchit pour savoir comment il peut contacter ce jeune tout et décide de voir sur Internet. Il a un ordinateur, disons dans ce fouillis, qui est près de sa chaîne Wi-Fi. Il le met en route et commence ses recherches. Il cherche d'abord dans les personnes en vie à Lyon. Rien. Personne de ce nom. Comment faire? Il tape dans rubrique homme célèbre. Jeune tout. Et là, il apprend dans historique sa vie et quels sont ses descendants. Giap. Et après Diap, il voit que le successeur de Diap, c'est Franblanc. Il sait qui est Franblanc, tout le monde le sait. Ce qui l'ennuie, c'est que Jeune-Tout soit mort. Sans descendant officiel. Les autres ne peuvent payer pour ça. Ça ne les regarde pas, la vie privée de Jeune-Tout. Mais en réfléchissant, il se dit que si, puisque il a un héritier, un vrai héritier, ils doivent lui redonner ses biens, les biens qui sont à lui. Il se dit que pour que l'affaire ne s'ébruite pas, ils vont certainement payer gros. Jacques se sent puissant. Il sait qui est le véritable héritier de la plus grande fortune du monde. Il faut le leur dire et demander une grosse somme. Il écrit à Franblanc en leur envoyant une photocopie de la lettre. La lettre, il la cache chez un de ses amis, Jean-Philippe, dans une vieille cassette VHS, sans qu'il s'en rende compte. La lettre est arrivée au siège. Avant de monter chez le PDG, elle passe par différents services. Elle va d'abord chez Mademoiselle Lapin. Qui se dit que ça doit être encore un client calcitrant. Qu'elle aimerait bien ouvrir parce qu'elle a peur de se faire engueuler. C'est toujours cette terrier qui est écrit toutes les semaines la direction, faut leur dire du mal de moi, qu'elle fait mal son travail. Comme Mademoiselle Lapin n'a pas trouvé un gardien d'immeuble digne de ce nom, que c'est un scandale, etc., etc. Mademoiselle Lapin dit, vieille carne, toujours elle. Elle a dû faire écrire sa lettre par une autre locataire pour que je ne reconnaisse pas son écriture. Heureusement que Judith est là pour me défendre auprès de la direction. Judith est une sainte. C'est la seule qui me défend. Les autres disent que je n'ai qu'à m'en aller à la retraite. Ils m'ont même envoyé des dépliants de maisons de retraite. Ponts-toi plus. Comme si je ne savais pas que là-bas, j'en aurais pour 6 mois. Elle est prête à déchirer la lettre, mais Judith vient dans son bureau. Elle veut lui demander un service. Dire à François qu'elle fait des heures supplémentaires parce qu'il y a une réunion spéciale attribution des logements et projet de démolition. Vous lui direz de m'attendre au café en face, Mademoiselle Lapin le dit. Oui, bien sûr, Judith. Le pauvre chou, il va être attristé de ne pas vous voir tout de suite. Judith voit l'enveloppe froissée, prête à être jetée et non ouverte. Qu'est-ce? Ce doit être toujours la même. Je vais la prendre et répondre d'une façon définitive à cette emmerdeuse. Si nos services ne lui plaisent pas, qu'elle aille ailleurs, sous les ponts. Mademoiselle Lapin s'est dit, les clodos n'en voudront pas. Ils la jetteront dans la Seine. Judith, dans son bureau, lit la lettre. Surprise, irritée, furieuse. Elle voit que la femme, elle mène non que François et se dit que c'est peut-être François et que François l'a dragué parce qu'il savait pour ça. Furieuse, elle ne dit rien de la lettre. Le soir, lorsqu'elle retrouve François, elle cache ce qu'elle sait. Lui pose des questions sur ce qu'il était, son passé à Lyon, etc. Elle se dit que ce doit être lui. Elle lui demande s'il ne savait pas qui était Franblanc avant de la connaître. Il dit oui et jeûne tout. Non, je ne vois pas. Même pas ta mère? Non. Pourquoi vous posez toutes ces questions? Elle lui dit rien. Et pour savoir si tu connais l'histoire de notre groupe, tu sais, ça peut être intéressant, tu dois le savoir. Elle le croit peut-être innocent. Plus tard dans son lit, puis au moment de faire l'amour, une idée lui vient. Et si c'était lui, le bébé? Le vrai élu. Elle a fait l'amour avec lui. Lui, l'être dont elle doit le plus respecter, l'intouchable. elle a été unie à lui. Si c'est lui l'élu et non Gilbert, elle est perdue. Tous ceux qui touchent à l'élu seront détruits. Et ils seront détruits définitivement. On ne retrouvera même pas leur ADN. Rien. Elle refuse de faire l'amour en lui disant qu'elle a ses règles. Elle reste couchée près d'elle. Dans la nuit, elle séduit qu'elle a près d'elle, en confiance et sans défense, l'élu. L'élu qui se comporte comme un bébé avec elle. Elle en est fière, mais en a peur. Elle lui cache la lettre et il se quitte comme si rien n'était. Dans l'après-midi, dans son bureau, elle ne peut pas se concentrer sur son travail. Pense constamment à cette lettre. Soupire et se dit que son devoir est de prévenir ses supérieurs. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.